BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui, une émission dédiée aux armées. L'entreprise civile fantasme l'organisation des armées et les armées ont du mal à comprendre comment marche une entreprise civile. On va essayer d'être un pont entre les deux mondes. Avec nous aujourd'hui, le DRH du ministère des armées, l'amiral Hello. Il va nous dire aujourd'hui si un militaire engagé, c'est toujours un bon petit soldat. On va parler ensuite reconversion avec le colonel Jean-Vincent Berthe et on sera enfin avec un exemple de reconversion réussie, un ancien militaire qui a lancé sa société de gestion. Happy Boulot, le mag spécial armée, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et on commence notre émission spéciale armée avec l'amiral Philippe Hello. Bonjour, vous êtes bonjour. DRH du ministère des armées. Alors le monde civil, c'est-à-dire pour nous les entreprises, ne manque pas une occasion d'inviter des membres de l'armée dans leur séminaire, comme s'il y avait une espèce de passion pour l'armée, une idée d'une entreprise qui rêve à des bons petits soldats, c'est facile, regardez l'armée, comment ils font. Est-ce que c'est un fantasme ?
Il y a une part de fantasme, de même que les armées fantasment beaucoup sur le civil, avec son souci de l'efficience, des résultats immédiats. Je crois que chacun, on apprend des leçons de l'autre. Pour autant, c'est vrai que les armées, dans cette période un peu difficile, sont quelque part un rocher d'identité, de référence, de socle de valeur qui peut faire sens et qui, au moment où on cherche à mobiliser l'ensemble de ses personnels, quelle que soit son activité, peut servir de modèle, même si tout n'est pas transposable, évidemment.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'armée comme dans les entreprises, on discute les ordres ?
Bien sûr. Et d'ailleurs, on a même le devoir dans les armées de ne pas obéir à un ordre illégal. Donc, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas une armée de clones. Hein. Nous sommes bien des gens avec des cerveaux. On cherche à recruter des gens qui sont bien dans leur tête, bien sur leurs jambes, qui ont des qualités morales, physiques, physiologiques. Et la sélection est assez difficile.
On discute de plus en plus aujourd'hui dans l'armée entre gradés et opérationnels.
On doit discuter, on doit dialoguer, je préfère ce mot, et on doit communiquer dans les deux sens de manière à pouvoir être au diapason de la société. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous recrutons au sein de la société, nous avons besoin d'avoir des gens qui sont en phase avec nous. Il est important de dissocier la phase de discussion, de consultation, d'information de la phase opérationnelle, où là il n'est pas question, bien évidemment, de discuter des ordres tant qu'ils sont légaux.
Mais en amont, c'est ce besoin de clarté sur la mission
oui.
En amont.
Donner du sens est important et surtout qu'on a affaire à des gens qui sont de plus en plus dans le questionnement, dans le challenge, qui disposent d'informations immédiates, aussi bien d'ailleurs on le voit dans l'enseignement avec les professeurs qui peuvent être contredits en direct par leurs élèves avec les outils dont nous disposons aujourd'hui. Donc on a besoin de plus en plus de communiquer, c'est une évidence.
Vous avez recruté en 2020 25 000 jeunes. Qu'est-ce que vous leur vendez tout d'abord à ces jeunes pour qu'ils vous rejoignent ?
Alors d'abord, nous recrutons beaucoup de personnes différentes dans ces 25 000 jeunes. Vous allez avoir pratiquement du jeune mousse de la marine de 16 ans jusqu'au post-doctorant de laboratoire de la délégation générale pour l'armement. Donc vous voyez que le panel est très, très large et nous recrutons aussi des militaires et des civils dans toutes les catégories d'emplois traditionnels de la fonction publique, mais aussi des fonctions militaires. Nous avons plus de 13 corps différents. Hein, donc il y a plus de 650 métiers. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir un discours univoque et nul mieux que l'employeur ne peut recruter. Moi-même, en tant que DRH groupe du ministère, je m'occupe directement des civils. Donc, j'ai développé une identité des civils avec une marque employeur très forte. On essaye de leur donner une communalité, en fait, d'action. Mais par contre, sur les militaires, je laisse les armées complètement libres de décider de ce qu'elles veulent recruter. Et nul mieux qu'un employeur ne peut parler de son métier avec passion pour attirer. Puisque l'objectif, quand même, c'est d'attirer 28 000 personnes sur une génération de jeunes d'environ 800 000 chaque année.
C'est de plus en plus compliqué ou pas ?
C'est en partie compliqué parce que d'abord nous avons un métier qui n'est pas forcément commun hein, et donc il n'est pas forcément facile de s'y projeter si on ne le connaît pas du tout. 60% des gens qui nous rejoignent et qui tiennent dans la durée sont en général des gens qui connaissent le milieu militaire à travers des amis, de la famille ou en tout cas quelqu'un de fiable qui leur en a parlé et qui a pu vaincre leurs appréhensions.
66%, c'est beaucoup et c'est peu.
C'est à la fois beaucoup et peu, oui, mais c'est quand même pas mal parce que on est quand même dans une armée qui pèse à peu près 300 000, 270 000 personnes. personnes, militaires et civils confondus.
Mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui arrivent dans l'armée par hasard.
Oui, il y en a qui arrivent par hasard.
Par le poste, quoi.
Il y en a qui arrivent aussi parce qu'ils ont envie de se reconstruire, de retrouver un sens à leur vie, de trouver aussi quelquefois une identité, une culture, un goût commun d'un esprit de camaraderie et d'un nouveau réseau de vie qu'ils n'ont pas pu construire du fait de leurs accidents précédents de la vie.
Comment on construit cet engagement dans l'armée ? Vous dites certains la connaissent, mais certains ne la connaissent pas, donc ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas forcément réfléchi à la manière dont ils allaient s'engager. Comment vous leur expliquez l'engagement ?
Eh bien, il faut leur expliquer avec leur langage et tout en leur transposant dans leur langage ce qu'ils vont trouver chez nous, et il ne faut pas leur mentir. Il faut savoir leur montrer sans aucun phare la réalité de notre métier avec ses contraintes, ses suggestions, mais aussi toute la passion qu'il peut représenter, toute cette possibilité de progresser, parce qu'on ne rentre pas dans une impasse dans laquelle on sera cantonné pendant 30 ou 20 ans. D'abord, on rentre souvent sous forme d'un statut de contractuel, et puis ensuite derrière on propose et on accompagne ces jeunes pour les aider à progresser et même à changer de catégorie, de condition, voire de métier. Et nous avons beaucoup aussi de transitions professionnelles internes aux armées en fonction des métiers qui sont plus ou moins déficitaires.
On va parler reconversion juste après. Vous faites beaucoup de formations au sein d'une carrière. Dans le civil, on découvre aujourd'hui l'intérêt de l'employabilité, de se former en permanence. Vous, ça a toujours été comme ça. Ça fait partie du job, la formation.
Ça fait partie du job parce que d'abord, on parle aujourd'hui d'une société de formation tout au long de la vie. Les métiers évoluent, et y compris des métiers militaires. Il y a évidemment un fond commun de valeurs et de formation élémentaire initiale, mais ensuite, tout au long de la carrière, compte tenu de la technicité des métiers qui est de plus en plus forte, nous sommes obligés forcément de conduire des stages d'adaptation à l'emploi. Il est vrai que nous avons des périodes de formation importantes. Il faut aussi bien dissocier les périodes de formation, d'acquisition de qualifications, des périodes d'entraînement. Le métier du militaire, c'est aussi, comme un grand sportif de haut niveau, celui de s'entraîner au combat qu'il va mener. Et donc, il ne faut pas compter cela comme de la formation. Mais en termes de formation, on a effectivement des formations un peu plus longues que dans le civil, liées à la technicité des postes, à cette volonté aussi de prendre la matière humaine telle qu'elle est et d'essayer de la faire progresser, de l'éduquer, de l'élever et de l'accompagner dans cette démarche. Et ça prend du temps. D'autant plus que, vous le savez, aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont un peu démunis, notamment dans les métiers techniques qui sont de plus en plus répandus dans les armées, pour lesquels nous sommes obligés de passer, mais c'est aussi une vraie opportunité, par l'apprentissage, par des stages, par le moyen d'offrir le plus possible d'éventail de solutions à des jeunes qui ne sont plus destinés à faire et à suivre des situations académiques qu'ils ont finalement refusées durant leur enfance. Donc il faut qu'on propose autre chose, de plus pratique, de plus concret, qui leur permettra d'accéder immédiatement.
C'est une autre version de l'école.
C'est une version de la pratique d'un métier par l'apprentissage. Les compagnons, le tutorat, c'est exactement ce qui s'est fait pendant des siècles. Alors, c'est pas un discours de vieux de dire ça, mais...
Mais c'est pas ça, c'est que le civil apprend ça. Le tutorat, c'est très nouveau dans les entreprises privées.
Oui.
Oui, le fait d'être en rapport avec quelqu'un qui vous gère tout au long de votre carrière, c'est nouveau. La formation, ça fait aussi partie des moyens de fidéliser une partie de vos jeunes.
Oui, parce que quand on forme des jeunes le plus tôt possible, d'abord, on va les ancrer dans nos valeurs, on va les faire adhérer plus facilement à notre système d'organisation et de valeurs, mais aussi, ils seront plus adaptables, évidemment. Et en plus, on va pouvoir les garder plus longtemps. On en fait l'expérience. Tous ceux qui sont passés chez nous par l'apprentissage ou les premiers niveaux de qualification ou de grade, lorsqu'on arrive à les fidéliser, ce sont ceux qui vont rester les plus convaincus le plus longtemps possible. Et ça nous intéresse parce que non seulement on doit recruter, mais on doit aussi fidéliser. Ce qui est un autre défi du ministère, puisque nous gérons des flux. Plus de 28 000 entrées-sorties l'année prochaine.
30% partent au bout de 6 mois.
Oui, 30% de certaines populations partent au bout de 6 mois. Il s'agit principalement de jeunes militaires du rang qui, justement, ont réalisé que ce métier peut-être leur apparaissait comme trop exigeant, trop difficile au premier abord, même s'il faudrait peut-être prendre plus de temps, mais on n'a pas le temps. Parce qu'on doit immédiatement délivrer aux forces des combattants qui soient prêts à agir sur tout le spectre de nos missions. Et donc, nous sommes obligés de gérer ces flux, même si on cherche à les ralentir, évidemment, parce qu'ils ont un coût. Et ces flux de personnel, ce ne sont pas que des flux quantitatifs. D'abord, on individualise de plus en plus ces recrutements, parce qu'on a affaire à des personnes, et il faut les traiter en tant que telles, et les aider à s'épanouir dans notre métier, sinon on ne les gardera pas. Mais aussi parce qu'on a un éventail de métiers tellement large que les problématiques de rareté ou de communalité des compétences se posent de manière radicalement différente suivant qu'on est dans des métiers d'administration générale, dans des métiers du numérique, dans des métiers du renseignement, voire demain de l'espace avec
la création de la future force spatiale. Est-ce que les jeunes militaires arrivent eux-mêmes à savoir l'éventail l'éventail des métiers possibles.
Il y a plus de 650 oui. métiers différents. Si je compte
les différentes filières. Il y a vous qui savez tout ce qu'on peut faire. Quoi.
On sait d'abord, on le présente sur Internet. Mmh. On utilise les outils modernes. On vient de créer un portail, notamment pour les personnels civils, qui s'appelle Devenez civil de la défense, où on peut naviguer depuis le stage pour un jeune de 13 ans jusqu'à des emplois de haut niveau pour des diplômés. Et les militaires dans chacune des trois armées font de même avec des sites extrêmement actifs. De plus en plus, le recrutement est dématérialisé, mais très vite, on cherche à avoir un contact direct, à défaut téléphonique, dans cette période difficile, mais ensuite physique avec les personnes.
Dans le privé, on cherche le talent. On dit, c'est quoi le talent pour rentrer dans ma boîte? Chez vous, c'est quoi le talent?
Nous, on part du principe que c'est le métier qui va permettre de discerner les talents. Peu importe finalement d'où on vient, ce que l'on est à l'origine, nous avons la conviction que notre métier façonne par l'histoire personnelle que chacun vive, ses compétences, ses aptitudes, et qui va pouvoir développer son potentiel. Et c'est donc une sélection tout au long de la carrière qui leur sera offerte avec les outils pour les aider à franchir les marches. On est bien donc dans une logique d'escalier social, et il s'avère que ces talents, ceux qui sont probablement les meilleurs, en tout cas au niveau académique dans les premières années, ne seront pas forcément les bons chefs et les futurs leaders de demain. C'est la construction de leur parcours professionnel qui permettra de le faire. Ne serait-ce que parce que le parcours est sélectif. On ne peut pas se permettre de jouer au hasard quand on sélectionne des pilotes de chasse pour aller faire des missions de nuit au-dessus d'un théâtre étranger. On n'a pas le droit de se tromper. Donc ça oblige à une sélectivité très forte. Et ce que je dis pour un métier très technique comme celui de pilote est valable tout aussi pour un jeune militaire du rang dont les aptitudes physiques et psychologiques seront fondamentales pour l'envoyer au Mali.
Mais vous leur dites quand ils sont jeunes, peut-être que vous-même, vous ne connaissez pas les capacités que vous pouvez avoir pour tel et tel métier. Laissez-vous
la possibilité d'évoluer, mais aussi tout un dispositif d'orientation, de réorientation tout au long de la carrière pour ceux qui feront le choix de rester ou que l'on voudra garder, puisque aussi dans une logique de sélection, on va en inciter aussi certains à partir si on se rend compte qu'ils n'auront pas le potentiel et les qualités requises pour les emplois pour progresser dans la hiérarchie.
Comme tout bon DRH, vous êtes sur LinkedIn, c'est là où doit être un DRH aujourd'hui. Est-ce que vous répondez en direct à ceux qui vous contactent?
Je filtre évidemment, bien évidemment, mais je le fais moi-même. J'ai effectivement un site LinkedIn et une messagerie à laquelle je réponds quand il s'agit de jeunes, parce que fondamentalement dans notre métier et dans les armées, nous sommes tournés vers la jeunesse, vous l'avez compris. Et dans cette situation du Covid, qui est extrêmement tendue, je mesure la détresse des jeunes pour trouver des stages, pour continuer leurs études tout simplement. Et donc je m'astreins à essayer de répondre systématiquement et de leur offrir des solutions, ou en tout cas de les aiguiller vers les opportunités que l'on peut avoir.
Les réseaux sociaux, c'est aussi important dans le recrutement.
C'est fondamental. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes très présents. Vous pouvez d'ailleurs constater que les armées, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, font des campagnes de communication très réussies.
J'ai vu. Moi, je vous parle sur Twitter. Vous voyez comme quoi ça fonctionne. Merci beaucoup, Amiral Filippello, d'avoir été avec nous, DRH du ministère des Armées. On va parler reconversion et de la place du conjoint dans la mobilité quand on est militaire.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better together.
Et il y a une vie après l'armée. On va parler reconversion des militaires. L'armée a une structure dédiée et très active. On est avec colonel Jean-Vincent Berthe. Bonjour, chef du bureau reconversion défense mobilité. Vous travaillez pour le ministère des Armées. Le temps de mission d'un militaire, c'est 8 ans en moyenne. Est-ce qu'il faut penser à la reconversion dès qu'on devient militaire?
Non, il faut pas, parce qu'en fait, lorsqu'on devient militaire, la première priorité, c'est l'engagement, donc c'est se donner à fond pour la mission, apprendre son métier, dérouler un parcours professionnel, et on n'a pas besoin de penser à sa reconversion d'emblée. Ce qu'on dit aux militaires, par contre, c'est au moment où il faudra y penser, quelques mois avant votre départ, que ce soit à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous serez accompagné par un opérateur dédié du ministère des Armées, qui vous connaît et qui vous amènera vers l'emploi, en tout cas qui fera tout pour valoriser vos compétences et vous aider dans cette transition.
Et alors, les quelques mois ou l'année avant la reconversion, vous avez un public de militaires qui est perdu, qui a déjà une petite idée, il faut construire tout un projet professionnel?
Alors, oui, il est deux. En fait, on a des militaires qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent, notamment les plus anciens, mais on a également des militaires, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, militaires du rang, officiers ou sous-officiers, qui se sont tellement engagés que finalement, ils n'ont pas tellement pensé à l'après, et tant mieux. Et donc, on va les aider à construire effectivement un projet professionnel, c'est nos conseillers qui vont faire ça, qu'on va appeler réaliste et réalisable. Réaliste, c'est quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous souhaitez faire.
Donc, on fait un bilan classique.
Voilà, on fait un bilan de compétences. compétences, on essaie de valoriser un petit peu tout ce que vous avez fait. Et puis réalisable, c'est-à-dire est-ce que vous allez pouvoir le déployer dans le bassin d'emploi où vous le cherchez, est-ce que ça correspond aux compétences qui sont recherchées. Donc on les aide à élaborer ça effectivement, parce que tous hésitent. Et surtout on leur présente le champ des possibles, puisqu'en fait les entreprises recrutent dans beaucoup de métiers.
Mais alors le champ des possibles c'est tout quoi,
enfin, oui c'est tout exactement. Alors on a bien sûr des militaires qui pensent traditionnellement à des métiers du transport, la logistique, de la sécurité, du BTP, des services à la personne, mais on peut leur présenter des métiers également dans le domaine du numérique, dans d'autres domaines. Certains ont des compétences transposables, d'autres moins. Donc on va les aider à en acquérir de nouvelles et on leur présente surtout ce qui existe, puisqu'on a on travaille avec des entreprises, des petites moyennes entreprises et aussi des grands groupes, donc on a un petit éventail de ce qu'il peut recruter.
Est-ce que le militaire en fin de carrière est toujours bien conscient de ses atouts, de ce qu'il peut apporter à une entreprise ? Est-ce qu'il arrive à faire sa petite liste ?
Non, il n'est pas toujours conscient, parce qu'en fait souvent...
Il y a des choses, c'est inné.
Oui, il y a des choses qui sont effectivement, donc c'est le but de Défense Mobilité, de nous conseiller dans les antennes, de justement leur apprendre à valoriser leurs compétences, à les faire ressortir, à en acquérir de nouvelles via la formation professionnelle par exemple. Et puis ils n'ont pas forcément conscience également de ce que les entreprises appellent les soft skills, c'est-à-dire ces fameuses compétences comportementales, rigueur, autonomie, capacité d'adaptation. Ça fait partie d'un
trop facile, c'est tout ce que cherchent les entreprises.
Un militaire, oui, alors ils cherchent aussi des compétences techniques, mais c'est vrai que c'est un atout aujourd'hui, surtout dans cette période de crise, et c'est vrai qu'ils n'en ont pas toujours conscience, donc on essaye de leur faire valoriser cela, parce que effectivement, ça fait partie chez nous un petit peu des qualités qu'ils entretiennent tout au long de leur carrière, depuis l'école jusqu'à la fin.
Est-ce qu'ils arrivent à bien connaître l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur d'être mal jugés, d'être mal compris? Il y a une communication qui est très différente dans l'armée.
Oui, ils n'ont pas les codes. Ils ne le savent pas forcément. Il y a aussi un deuil à faire, puisque l'armée est très fraternelle. Et puis, il y a des valeurs et qu'on ne retrouve pas forcément dans l'entreprise. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que souvent, ils veulent se dévouer à une... Non pas à une cause cette fois, mais en tout cas à une entreprise, à des chefs, à une mission.
Il leur faut un engagement.
Des engins. Et ouais, ils retrouvent parfois l'engagement. Et c'est d'ailleurs ce qui plaît. Mais ils n'ont pas les codes. Alors, on leur apprend, et puis au fur et à mesure, ça s'ajuste. D'ailleurs, on a, pour les militaires durant, un centre militaire de formation professionnelle, qui est une espèce de sas pour eux, justement, qui va leur apprendre, qui va les aider à faire cette transition. Il est à Fontenay-le-Comte, ils forment dans 50 métiers, mais en plus, il va les aider, justement, à un peu mieux comprendre les codes de l'entreprise. Et il a des résultats d'insertion assez éloquents, à 90%.
Donc on explique l'entreprise ? On explique à l'entreprise comment fonctionne le militaire et au militaire comment fonctionne
On leur explique l'entreprise, bien sûr. Après, ils auront également des stages en entreprise qui vont leur permettre de découvrir, des stages d'adaptation en fait, ou de formation en entreprise qui vont leur permettre de découvrir l'entreprise de l'intérieur et de confirmer un projet professionnel ou pas. Donc, ils sont immergés à un moment donné, au cours de leur parcours de reconversion, dans une entreprise qu'ils ont choisie avec une convention et vont pouvoir comme ça un petit peu opérer cette transition plus en douceur.
Est-ce que l'entreprise déçoit parfois, justement, dans son manque d'engagement global, dans des process qui ne sont pas les mêmes?
Je ne sais pas si l'entreprise déçoit, parce qu'en fait, c'est très variable d'une situation à l'autre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir pour certains un petit choc, voilà, une espèce de deuil à faire d'institution. Voilà, mais il y a un ajustement mutuel qui se fait, je pense. C'est vrai que l'entreprise recherche des compétences, un engagement, un professionnel auquel elle peut apprendre un métier. Le militaire, lui, c'est vrai qu'il ne va pas retrouver tout à fait la même chose. Il peut être déçu, mais soit il change de projet, il revient, il change d'entreprise, soit il continue et puis il fait ce processus de maturation progressive.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de prendre en considération la place du conjoint ?
Aujourd'hui, bien sûr.
Les femmes travaillent, les femmes de militaires aussi ?
Oui, les femmes travaillent, les femmes de militaires aussi. Il y a eu une évolution sociologique sur ce sujet et Madame la Ministre a donné une grande impulsion avec le plan famille en 2018. Donc aujourd'hui, on a déployé toute une offre de services au profit des conjoints de militaires pour deux raisons. D'abord parce que ça fait partie en fait de la condition du personnel de nos militaires et puis il y a aussi derrière un peu de manœuvre RH chez nous, parce qu'en fait ça va aider à la fidélisation, parce que vous savez que les militaires ils ont dans leur statut ils ont la mobilité, donc ils sont mutés régulièrement tous les 3, 4 ans, 5 ans, leur conjoint suit et donc leur conjoint change de travail. Donc on les accompagne effectivement vers l'emploi, on essaye de les aider, on peut même leur financer des formations professionnelles si besoin. Et donc on a développé tout ça depuis 3-4 ans, 3 ans maintenant, vraiment.
Vous dites que c'est un enjeu de fidélisation parce que vraiment maintenant ça parle, je dis maintenant, mais au cœur du militaire dans sa carrière, la place
de
sa famille.
Oui, c'est indéniable. Aujourd'hui, les armées, d'une manière générale, le ministère a toujours pensé aux familles, hein, notamment dans une armée qui est de projection, où il y a des opérations extérieures, où on a la présence du danger et de la mort et de la blessure.
Mais peut-être pas dans l'emploi.
Mais par contre, dans l'emploi, effectivement, même si Défense Mobilité a toujours accompagné les conjoints, on ne le faisait pas avec cette envergure, et maintenant on a déployé, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de fidélisation et de conditions du personnel pour nos soldats et nos officiers, nos sous-officiers qui ont besoin de cet appui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, colonel Jean-Vincent Berthe, chef du bureau reconversion Défense Mobilité. Vous travaillez pour le ministère des Armées. On va passer de la théorie à la pratique avec un exemple de reconversion.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on est avec le commandant Clément Judette de la Combe, fondateur de 3 Alpha, société de conseil et d'immobilier dédiée aux militaires. Bonjour.
Bonjour.
Clément, vous avez entamé il y a quelques années une reconversion. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, l'armée, j'arrête, je fais complètement autre chose ?
Alors, pour mon cas, ça n'a pas été ça. Ça a été un cheminement plus personnel. Quand on s'engage en tant que militaire, on a un processus d'engagement, on veut se tourner sur sa vocation de soldat pour partir en mission et servir son pays, etc., etc. Me concernant, ça a été d'apporter une réponse sociale à un besoin d'accompagnement des militaires pour les aider à concilier au mieux une vie privée et une vie militaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas simple, c'est pas évident, et il y a besoin d'avoir une spécificité par rapport à ça.
Donc c'est votre vécu personnel dans votre vie plus militaire égale votre boîte.
Exactement. On va chercher dans la société civile les meilleures solutions adaptées aux besoins des militaires pour y répondre. On met de la connaissance, on met de l'accompagnement et ça permet d'avoir des solutions adaptées pour justement des problématiques fiscales, des problématiques immobilières, des problématiques d'épargne, des problématiques d'assurance. Et on englobe tout ça en fait dans une stratégie. En tant que militaire, on a appris à faire de la stratégie. Aujourd'hui, on fait de la stratégie non plus militaire, mais de la stratégie patrimoniale, de façon à les aider à avancer dans leur vie militaire et aussi à préparer bien évidemment l'après-carrière, avec une offre adaptée pour les conjoints, pour les familles et aussi pour les cils de la défense et les anciens militaires.
Parce que les militaires, sur la question financière, parce que c'est votre nouveau business, sur le conseil et l'immobilier, ils ont des besoins de militaires. On ne peut pas les mélanger avec les autres. Les banques ne les comprennent pas.
Alors, il y a effectivement un décalage. Ce qu'on constate, c'est une double méconnaissance. Donc, il y a une méconnaissance réciproque, en fait, entre la société civile, qui vit son rythme, et la vie, et le monde militaire, qui vit ses opérations, qui vit son quotidien, qui vit sa mobilité, qui vit ses problématiques, en fait, bien spécifiques. Et il existe dans la société civile tout un tas de solutions qui y répondent, mais chacune des deux parties s'ignore un petit peu d'une certaine façon, ou en tout cas ne se comprend pas suffisamment, de façon à ce que les militaires puissent trouver une sérénité dans ce contexte-là, de réaliser des projets.
Et ça les rassure justement, eux, d'avoir un ancien militaire qui parle le même langage. On disait tout à l'heure avec Jean-Vincent Berthe, il y a parfois avec les entreprises du privé un problème de communication, vraiment de manière de se parler. Là, c'est un peu pareil.
Ce qui se passe, en tant qu'ancien militaire, on se comprend, on a les codes, on a les compréhensions. On sait leur parler, on sait comprendre leur quotidien, parce que moi le premier je l'ai vécu, j'ai passé 18 ans dans l'armée de terre à partir en opération, avoir un quotidien tourné vers l'opérationnel, vers le commandement, et donc j'ai vécu en fait ces problématiques-là. Et donc en tant qu'ancien militaire, il y a une connaissance de fait et qui permet d'apporter effectivement de la sérénité sur tous ces sujets au quotidien, bien évidemment.
Vous voyez à aucun moment aller dans une grosse boîte faire, je sais pas, de la logistique, de la sécurité ou je ne sais rien ?
Alors moi pour le coup, pas du tout. Aujourd'hui, le sens de mon engagement, c'est de le prolonger en dehors de l'armée, justement pour aller me tourner aujourd'hui vers la communauté militaire et pour les accompagner sur ces sujets. Parce que je les ai vécus, parce que je les ai parfois subis, parce que j'ai eu des besoins et parfois j'ai pas compris en fait certaines choses dont on me parlait. Et comme une bonne compréhension passe permet d'apporter de la sérénité au quotidien, aujourd'hui c'est réellement nécessaire.
Le sens de l'engagement, c'est aussi dans la logique entrepreneuriale. C'est-à-dire que le travail, c'est forcément un engagement.
Pour moi,
on peut jamais se défaire de ça quand on est militaire.
Si,
parce qu'on ne travaille pas tous avec un engagement à 100%. C'est pas,
Si, mais un militaire a un quotidien différent. Le militaire, il part avec ses camarades en opération. Il peut y laisser sa vie, il peut y laisser une famille, il peut revenir blessé, physiquement, psychiquement. Il y a des contraintes, il y a un contexte par rapport à ça. Et du coup, quand le militaire revient, qui est une phase sensible de la réappropriation du quotidien, des habitudes, il y a des sensibilités sur lesquelles il faut pouvoir apporter une réponse adaptée. Et aujourd'hui, avec 3 Alpha, on sait le faire. On accompagne des familles militaires en France, des civils de la défense, des anciens militaires, des conjoints, pour mieux comprendre leur quotidien avec des solutions adaptées. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, 3 Alpha, c'est la réponse d'une certaine façon à ce que j'aurais voulu souhaiter, à ce dont j'aurais voulu souhaiter bénéficier pendant mon temps en opération.
Mais on se dit, en tant que civil, quand on écoute les témoignages de militaires, mais ils n'ont pas envie d'être tranquilles, justement, puisque ça a été dur sur le théâtre d'opération, puisque sans arrêt, on est engagé. Faites un truc, je ne vous dis pas de devenir plagiste, mais un truc qui vraiment soit plus simple. Non, il y a toujours ce rapport avec la famille, l'engagement, le fait d'aider les autres, parce qu'il y a ça dans votre démarche.
Totalement, c'est au centre en fait. Oui, on a des services, oui, on a de l'immobilier, oui, on a des assurances, oui, on a plein de choses. Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est d'aider, d'accompagner pour pallier en fait à un quotidien complexe avec toutes nos solutions et tout l'accompagnement qui va au-delà de ça, avec une vraie sérénité qu'on apporte au quotidien.
Vous avez passé une bonne partie de votre carrière à vous former. On en a parlé tout à l'heure avec l'amiral Hello. Vous avez Exactement. Recommencé pour lancer votre boîte.
J'ai recommencé. Ça a été un challenge important, conséquent. Il a fallu beaucoup travailler. Mais aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction de pouvoir aider d'anciens camarades, d'anciens frères d'armes et plus largement toute la communauté militaire.
Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. On suivra 3 Alpha, voir si ça marche puisque vous lancez votre entreprise. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.